Ouais, salut, ça va ou quoi?
Bonjour, bonsoir.
Ça va, Manuel?
Ça va très bien.
Manuel, ça va très bien déjà, merci de me demander.
Ça va, Léo?
Pour une fois. Ouais, ça va très bien. Et toi?
Ouais, ça va super.
Et bah, c'est cool.
Toi, surtout, comment tu vas?
Bah, écoute, ça va très bien, Manuel. Je vais avoir besoin que tu participes à ce podcast.
Ça veut dire que je serai nul dans le sujet qu'on va aborder?
Alors, c'est pas que tu seras nul, c'est qu'on va quand même aborder le sujet vraiment entrepreneuriat, start-up, etc. Donc, il me faut le plus d'expérience possible.
Ah, effectivement.
Voilà, donc c'est pour ça que je sollicite.
J'ai quand même
principalement
réussi.
Manuel.
Ben, j'ai ouvert un Ficello hier.
Un Ficello?
Ouais.
C'est une belle entreprise, ça,
ouais,
Romain, c'est très bien.
Je l'ai ouvert. Voilà.
Elle dit quoi, la thérapeute?
Elle dit ça, voilà.
Ok, très bien. Okay. Parce qu'on va parler d'un livre que je crois que tu as lu, parce que je l'ai vu dans l'Open Space tout à l'heure, qui s'appelle Hard Things About Hard Things.
Exactement.
De...
Ça veut dire que t'aimes les choses dures.
Ben Horowitz, qui est un entrepreneur et investisseur américain, et qui parle des défis et des difficultés auxquels il a été confronté dans les startups par lesquelles il est passé dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que t'as pensé de ce livre?
C'est un très bon livre que je ne conseille pas assez, et tu viens de me rappeler de le conseiller plus souvent.
Trop bien, bah, je ne l'ai pas lu, j'ai lu un résumé sur Twitter, donc on mettra dans les notes du podcast à la fois le lien.
J'ai eu
un
ascenseur émotionnel horrible.
Pourquoi?
Je vous voyais parler du livre et tout, super, moi je me sentais pas bien du tout de ne pas l'avoir lu, et là Léo, je ne l'ai pas lu.
Non, je ne l'ai pas lu, j'ai lu un résumé, donc on mettra dans les notes de l'épisode à la fois le lien du livre et le lien des tweets. D'ailleurs, quand tu mets les liens des livres, tu mets un lien Amazon...
Bah évidemment, affilié. Pour qu'on touche un peu de la caillasse,
mais
pour take-out.
Ça nous revient, ça ou...
Bah évidemment.
C'est Romain.
T'as déjà vu cet argent, toi?
C'est le lien de Romain.
T'as déjà vu cet argent, toi?
Léo, en plus.
Jamais.
Léo, en plus, c'est lui qui m'a dit « mets quand même un lien affilié, parce qu'à mon avis, il y a des gros lecteurs chez nous et qu'on puisse le traquer. » Bah évidemment, mais c'est un lien take-out, connard.
Mais où est l'argent?
Mais l'argent, il est sur Amazon, et on a gagné 4,50€ depuis.
Super.
Bah ouais, je les veux.
Rends l'argent.
D'accord.
Bah on les divise en trois, tu nous les donnes maintenant, sinon moi je continue pas le podcast.
D'accord, ça fait 50-50-50.
Ah oui,
ah ouais.
Problème de...
Ouais, d'accord.
Vous l'avez pas la ref?
C'est lui qui fait la compta.
Bon, allez.
Non, heureusement.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc j'ai repéré 15 points d'après ces tweets, 15 difficultés qui feront couler votre entreprise. Est-ce que vous voulez les entendre ou alors on arrête, on va boire une bière ensemble, on fait pas du tout le...
Moi, qu'on fait jamais,
je préfère,
moi je préfère les points
préfère
aussi.
Écouter les points.
D'accord, très bien. Premier point, ce qui est difficile, ce n'est pas de se fixer un grand objectif audacieux, mais de licencier des gens quand on n'atteint pas le grand objectif.
Ah,
très vrai.
Ok.
Ah, Romain...
On est direct dans le sujet. oui, bah je suppose... J'ai jamais eu à virer quelqu'un.
C'est pour ça que je faisais appel surtout à Manuel pour ce podcast.
Ok.
C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que dans une démarche entrepreneuriale, il faut qu'elle soit à la fois empathique et en même temps pas infantilisante.
Mm-hmm.
Donc il faut que tu aies de l'empathie et de la considération pour les gens avec lesquels tu poursuis cet objectif. Et en même temps, ne pas prendre des responsabilités trop personnelles ou paternalistes parce que t'es pas là pour ça, en fait. Et c'est là où souvent le bas blesse. Tu recrutes, tu fais un casting pour un projet. Ce projet ne marche pas. Il faut que tu te sépares de ces personnes qui ont été castées pour ce projet, que tu en prennes d'autres pour un autre projet ou pour l'ajustement de ce projet initial. Et c'est la vie, c'est comme ça. À un moment, on peut pas être magicien, en fait. Et je trouve que les anglo-saxons ont un rapport beaucoup plus froid, beaucoup plus réaliste par rapport à ça. C'est-à-dire, le projet fonctionne, tu es un individu qui aide ce projet à fonctionner, tu es considéré et valorisé pour ça, à tout point de vue. Et si le projet a du mal, les gens connaissent les enjeux.
Ouais.
Ils savent qu'ils vont partir avec. Donc ils vont se battre beaucoup plus pour le projet, ce qui crée une relation d'équipe plus forte souvent.
C'est simplement une différence culturelle ou alors ça a aussi un rapport avec le fait que...
Non, on va parler de droit du travail.
Par exemple, aux États-Unis, c'est plus facile aussi de trouver un travail, donc c'est plus facile de te faire virer d'un travail.
Ben, bien sûr, c'est alors... moi, ça fait pas de doute. Enfin, tu vois, moi, je suis un libéral. Donc je considère que plus le marché est liquide et mieux c'est. Et c'est pas en mettant des contraintes ou à l'embauche ou à la sortie que tu défends l'emploi. Tu défends l'emploi en faisant en sorte qu'il puisse se faire et se défaire facilement. Parce que c'est ce qui va même donner plus de pouvoir aux employés. Parce que le fait qu'ils puissent changer rapidement dans un marché où il y a de la demande ou de la fluidité pour changer, leur donne plus de pouvoir et plus d'exigence par rapport à leur employeur. Parce que si leur employeur ne les traite pas bien, c'est facile pour eux
de changer,
de trouver une alternative. Donc je trouve que c'est la meilleure chose. Malheureusement, on a un code du travail qui est de plus en plus épais, de plus en plus complexe, etc. Et ça freine les employeurs parce qu'ils se disent, bah, je regarde l'Europe comme une zone globale dans laquelle il faut que je sois présente. Et où est-ce que je vais commencer à m'établir? Bah, souvent, c'est pas la France. Souvent, c'est la Grande-Bretagne. Souvent, c'est l'Allemagne, la Belgique, d'autres pays, les Pays-Bas. Mais c'est pas la France. Parce que le rapport à l'emploi en France est un sujet compliqué, très régulé.
Deuxième point, le plus difficile n'est pas d'embaucher des gens formidables, le plus difficile, c'est quand ces gens formidables développent un sens du droit et commencent à exiger des choses déraisonnables.
C'est QFD.
Oui, mais donc c'est, enfin, il faut trouver des gens bons mais pas trop bons, c'est quoi?
Si, bons mais réalistes.
Ok.
C'est dur.
En fait, c'est, il faut trouver des gens qui sont bons et qui ont conscience du collectif. Qu'ont conscience que l'intérêt individuel passe après l'intérêt collectif. Il y a des gens qui sont très bons et qui disent « ma valeur sur le marché, c'est ça », et qui le disent à l'intérieur d'un projet qui ne peut pas leur payer cette valeur. Et là-dedans, tu as deux attitudes. Des gens qui disent « ok, je sais que je suis payé moins que ma valeur du marché et c'est pour ça que j'ai négocié des stock options, de l'equity ou je sais pas quoi, et je serai payé à la sortie et je me solidarise du risque du projet ». Ou tu as des gens qui disent « je suis moins bien payé que la valeur du marché, soit tu me payes ça, soit je me casse ». Et en règle générale, mon conseil, c'est toujours de les laisser partir.
Tu peux partir ?
Je t'en prie.
Troisième point, le plus difficile n'est pas de mettre en place un organigramme, mais de faire en sorte que les gens communiquent au sein de l'organisation que vous venez de concevoir.
Bah, on en parlait pas plus tard qu'à midi. Les organigrammes, les job titles, les trucs d'ego, etc., etc., tout ça, c'est fait pour rassurer des fois des actionnaires, un board, des fonds d'investissement qui ont besoin de loin de comprendre quelle est la topographie, l'articulation globale de la boîte. La réalité, c'est est-ce que tu crées des synergies entre les équipes? Moi, prenons chez Influx en ce moment. Moi, j'ai toujours dit, job title, mettez ce que vous voulez. La politique sur le job title, mais ce que vous voulez, tu veux mettre Grand Schtroumpf, Gargamel, Garfield, ce que tu veux, tu mets ce que tu veux. Directeur de la planète Terre, de l'univers, etc. Mets ce que tu veux, je m'en fous complètement. En fait, les organigrammes sont faits pour essayer de rendre lisibles des choses qui ne le sont pas. Et la valeur d'une boîte, c'est sa capillarité. C'est les dernières terminaisons nerveuses. C'est les dernières connexions neuronales qui font que cette partie de la boîte discute avec cette partie de la boîte. C'est là que la valeur va se créer parce qu'il y a une capacité à essayer des deux côtés de se comprendre et de compléter, de servir le projet ensemble. C'est pas où est-ce que je suis dans l'organigramme par rapport à toi. C'est des guéguerres qui ne servent à rien. Ça marche assez bien sur les SMB.
Traduction.
Small and medium business, c'est les entreprises de taille moyenne, pardon. Et c'est plus compliqué dans les grosses boîtes parce que quand tu connais pas le mec qui t'envoie un email, son job title quelque part t'indique
bien sûr
d'où il parle. Donc c'est un petit peu plus difficile sur les très grosses boîtes. À la fin, chez Imakina, il y avait vraiment un comité qui s'occupait des job titles.
Ah ouais,
c'est incroyable.
Ça voulait dire. Et voilà. Et quand tu reçois un email d'un mec qui est manager, c'est pas la même chose qu'un mec qui est head of quelque chose ou director, etc.
Le comité qui s'occupe de ça, bullshit job, ou alors on considère que c'est vraiment intéressant?
Ah, c'était un comité à l'intérieur des HR qui réfléchissait très sérieusement à ces questions-là.
Je peux m'en charger chez Influx?
Chez Influx, on n'a pas de politique de job title.
Bah, je me propose.
Bah, je t'en prie.
Je veux bien créer le comité.
Ouais, soit le comité.
Je pense qu'à la fin de la fin, ce qui compte, c'est la communication. Et c'est ce qu'on a tendance à perdre avec l'habitude, soit des emails, soit des SMS, etc. Travailler en équipe, c'est devenu presque compliqué. Et j'aime bien l'image de la fameuse pizza qui doit nourrir une équipe. Ouais. C'était ce qui se faisait chez Amazon, a priori.
C'était la légende de Jeff Bezos qui disait on rabote les portes. Tu passes une pizza sous la porte. Si ton équipe peut pas être nourrie avec une pizza, c'est que ton équipe est trop grande, il faut la splitter en deux. C'est assez rigolo. Ça montre à quel point, effectivement, c'est des petits attroupements d'individus qui communiquent bien entre eux, qui arrivent à servir un projet plus grand. Pour l'anecdote, à la fin, chez Imakina, je ne mettais plus de job title dans mes signatures.
Tu mettais juste Manuel Diaz.
Oui.
Parce que je trouve bien...
C'est fou, parce que moi aussi, je signe mes mails Manuel Diaz.
Ah. En fait, t'enlèves la barrière du... Ah, je vais pas le déranger pour ça. En fait, si c'est la bonne personne pour répondre à ta question, peu importe le job title, va directement à la source, appelle la bonne personne une minute plutôt que de faire chier 15 personnes qui n'auront peut-être pas la bonne réponse et qui, de toute façon, à la fin de la fin, va atterrir dans la bonne personne qui devait te répondre, quoi.
Enfin, chez la bonne
personne. Auprès d'eux. C'est peut-être bien. Sinon, ça surprend.
D'ailleurs, il faut qu'on dise aux gens qu'on a testé chez Influx la théorie de la pizza. Et du coup, Romain compose une équipe à lui tout seul.
Oui, mais ça, c'est... on le sait depuis le début. Manuel savait que le gros défi pour moi, c'était de réussir à me faire travailler en équipe. Donc...
Oui.
Presque.
Presque.
Quatrième point. Les choses difficiles sont difficiles parce qu'il n'y a pas de réponse ou de recette facile. Elles sont difficiles parce que vos émotions sont en désaccord avec votre logique. Elles sont difficiles parce que vous ne connaissez pas la réponse et que vous ne pouvez pas demander de l'aide sans montrer votre faiblesse.
Alors, je sais pas si, bref, vous me direz ce que vous pensez de cette réaction. Mais plus je grandis et j'apprends dans le business du numérique, etc., moins je trouve les choses difficiles. Je trouve que c'est pas la difficulté le problème. C'est plutôt... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression de trouver des trucs difficiles. Parfois, je les trouve longs.
C'est faux, Romain, c'est faux.
Ah ouais ?
C'est juste que tu trouves pas les mêmes choses difficiles.
Ok.
Ce que tu trouves difficile, c'est gérer des gens, manager des équipes, etc. C'est pas le cœur du business, parce que celui-là, tu le maîtrises bien.
Je pense que tu t'es juste habitué à faire des choses difficiles.
Mais j'ai pas de douleur en travaillant, quoi. Tu vois, ouais, je me dis pas ça. À un moment donné, oh là là, faut que je fasse un truc, c'est long à faire. Non, à un moment, quand tu le fais.
Quand je te vois certains jours, je ressens ta difficulté.
Ouais.
Je sens que tu te confrontes à un truc que t'as jamais vécu, etc. Donc voilà. Ce sont des choses difficiles, mais tu les vois plus comme une souffrance, un truc insurmontable.
C'est un manque de maîtrise, et du coup, ça me demande de l'énergie pour continuer d'apprendre. Et je pense que c'est la difficulté que je vois, c'est ça, c'est effectivement le fait de continuer de déployer de l'énergie à certains moments où t'en as un peu moins, pour continuer d'apprendre. Parce que je pense que le vrai truc qui est difficile, c'est l'apprentissage. C'est là où ça fait mal, c'est là où ça pique.
En transparence.
Ouais.
Et apprendre en public avec ses équipes. Dire je ne sais pas, mais je vais apprendre. Ouais. Donc je ne suis pas à l'abri de faire une connerie et je ne suis pas à l'abri de vous mener dans une impasse. L'expérience, la maturité s'exprime à travers le fait d'exposer ses faiblesses, d'exposer ses doutes. Quand on est très jeune et très jeune manager, on veut avoir réponse à tout. Quand on est un manager expérimenté, on dit je n'ai réponse absolument à rien. Par contre, je sais que si je m'assois dans la pièce, je vais vous aider, vous, l'équipe, à trouver la meilleure réponse. Si c'est une bonne réponse, ça sera grâce à vous. Si c'est une mauvaise réponse, ça sera à cause de moi.
Mais est-ce que c'est pas dur quand tu arrives dans une entreprise de montrer que t'as pas la réponse à tout et que t'as pas encore toutes les compétences ? Parce qu'en fait, ça dépend vachement de ton manager. Est-ce qu'il a l'intelligence de se dire bah, c'est normal qu'il ait pas réponse à tout ? Je suis pas sûr que ce soit universel.
Alors,
ou alors, faut changer de boîte, tout simplement.
Ouais, exactement. Et le tout, c'est aussi d'être dans une boîte un peu mature sur ces questions-là.
Ouais.
Tu... tu embauches quelqu'un pour sa capacité à trouver des réponses face à des situations difficiles et des réponses dont tu n'as aucune certitude de résultat. Par contre, tu as la certitude d'avoir un raisonnement intègre. C'est ce qu'il dit à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va dissocier sa logique de ses sentiments, qui va dissocier l'intérêt du projet versus son intérêt individuel, ce qui est capable de détruire son job, en disant « je ne suis plus utile à cette entreprise ».
On est d'accord, je crois qu'on est d'accord aussi.
Ouais.
« Je n'ai plus utile à cette entreprise, Manuel ».
Parfait, mais moi ça me convient très bien.
Tu fais tes valises ?
Très très bien.
On y va ? Ok. Du coup, comme
dans la mesure où elle continue à m'appartenir, je n'ai pas de problème à ne pas venir.
Comme entre temps, j'ai été élu comité des job title, donc je suis le nouveau PDG de Influx.
Parfait.
Et je peux te dire que ça va barder. Cinquième point. Lorsque vous créez une entreprise, vous devez croire qu'il existe une réponse et vous ne pouvez pas prêter attention à vos chances de la trouver. Vous devez simplement la trouver. Peu importe que vos chances soient de 9 sur 10 ou d'une sur 1000, votre tâche est la même.
Tout part d'une problématique. T'as envie de régler un problème, c'est pour ça que tu montes une équipe, c'est pour ça que ça s'appelle une entreprise et que tu vends tes services. Mais parfois le problème, tu le vois pas ou tu le cherches pas. Enfin, je ne sais pas si des personnes existent sur cette terre en se disant « je dois créer une entreprise, trouvons un problème ». Il y a des gens pour qui c'est un business ?
Oui.
Ouais, vraiment, ils montent une structure, ils se disent en un an, je fais un exit, je trouve un problème.
Ah non, c'est peut-être un peu court, mais la base de la fondation d'une entreprise, c'est de résoudre un problème. Ça doit être l'élément constitutif de l'entreprise, c'est de résoudre un problème. C'est ce qui va t'animer dans ta passion, dans ta capacité de conviction, dans ta capacité à acquérir des clients. C'est ton job. C'est pour ça que le meilleur processus de vente, c'est d'abord de faire exister le problème et après d'expliquer comment tu peux le résoudre. Mais si la majorité des gens skippent la première partie, ce qui est en soi un problème.
De fou.
Il faut d'abord faire exister le problème et après résoudre ce problème.
Ça te permettra surtout de t'apercevoir que parfois, il n'y a pas de problème.
Après,
et donc, tu n'as rien à résoudre.
Dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de dire à ton prospect que ça ne sera pas pour cette fois et que vous n'allez pas travailler ensemble. Et souvent, ça paye, parce que cet élan d'honnêteté va faire en sorte que ce prospect dira du bien de toi et te prescrira à d'autres qui ont, eux, ce problème à résoudre. Mais des fois, tu n'as pas la certitude de résoudre parfaitement ce problème. Et je pense que c'est ce qu'il veut dire à ce moment-là.
Ouais.
Tu as juste le sentiment de résoudre une partie de ce problème. Exemple, Uber a résolu une partie du problème de déplacement lié au point de friction de l'expérience de déplacement. Je ne sais pas géolocaliser mon taxi, il n'accepte pas la carte bleue, etc. etc. Bon, depuis, les taxis ont fait des efforts, mais je veux dire, on était dans cette équation quand ils se sont créés. Est-ce qu'ils ont résolu le problème du déplacement ? Non, ils ne peuvent rien faire contre les bouchons, la circulation à Paris. Par contre, ils ont résolu une partie de ce problème.
Ouais.
Mais ils se sont concentrés sur une niche. Ils n'ont pas essayé de tout résoudre dans le secteur qui...
Tu ne peux pas toujours tout résoudre, mais tu peux résoudre une partie du problème.
Ça revient avec ce qu'on disait dans, je ne sais plus quel podcast, mais il n'y a pas très longtemps, quand on se disait, vaut mieux se concentrer sur une toute petite chose et le faire extrêmement bien plutôt que d'essayer de tout faire.
Ouais.
C'est la base quand vous allez regarder vos concurrents. Vous montez une entreprise, regardez déjà ce qui se fait dans ce secteur et parfois, il vaut mieux... En regardant ce qui se fait, se dire, tiens, tout ça, je ne vais pas du tout le faire ou un tout petit peu, mais par contre, ça, je vais le faire 10 fois mieux que les autres.
D'ailleurs, petit conseil à ce sujet, moi, tous les gens qui essayent de me vendre un truc et qui disent « on est dans cette catégorie, nos concurrents c'est eux, mais ils sont nuls », j'achète jamais.
Mais de fou, c'est horrible.
Je pense que tu n'as pas besoin de dénigrer tes concurrents pour faire exister ta value proposition. Si tu dénigres tes concurrents, c'est en général le signe d'un truc qui va pas.
C'est les annonces de smartphone. C'est les annonces de smartphone en tech, c'est tellement un résumé, c'est horrible. Tu vois directement les marques qui arrivent en disant « bon, vous ne nous connaissez pas, mais par rapport à eux, on a un gros processeur, hein, on a un gros machin. » Quel enfer.
Sixième point. Peu importe qui vous êtes, vous avez besoin de deux types d'amis dans votre vie. Le premier est celui que vous pouvez appeler quand quelque chose de bien vous arrive. Le second est celui que vous pouvez appeler quand les choses tournent mal, quand votre vie est en jeu et que vous n'avez qu'un seul coup de fil à passer.
Oui, hein. Je sais qui est qui, moi.
Ah, moi, tu m'appelles quand ça va bien.
Exactement.
Et t'appelles Manuel quand ça va mal.
Ah, si tu veux, s'il me faut une perfusion dans moins de 2 minutes, c'est surtout pas toi que je vais appeler.
Pardon.
Pardon, j'étais en mode travail et je n'ai pas vu ton message depuis 3 jours.
J'espère que ça va mieux. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Manuel, il va raccrocher une première fois parce que sinon, il sait que parfois je l'appelle alors que c'est pas nécessaire. Mmh. Par contre, si je lui envoie un message et que je lui mets urgent, t'es sûr que dans les 30 secondes, il me rappelle.
30 secondes ?
Oh, je pense, à peu près.
Ouais.
Mais il y en a très peu, par contre, là où t'as raison, c'est qu'il n'y a que 2 amis. Je pense qu'il y a vraiment.
Ça me va très bien. Voilà. Moi, je préfère, mais c'est tout personnel, hein, mais je préfère appartenir à la deuxième catégorie.
D'accord, c'est une attaque envers moi ?
Non, pas du tout. Je trouve que c'était un parfait équilibre que nous constituons.
Mais qu'est-ce que tu me reproches, par exemple ?
Rien.
Alors, pour toi, Léo, qui est qui ?
Moi, je vois pas les choses comme ça. Ça dépend du problème. Si ça dépend du problème. Il y a des problèmes pour lesquels je vais appeler Manuel et il y a des problèmes pour lesquels je vais appeler Romain.
L'alcool.
Vous êtes. Quand pour moi,
plus,
vous êtes.
Quand
une
t'as
personne.
Plus d'argent, par exemple. Quand t'as plus d'argent, qui t'appelle ?
Quand j'ai plus d'argent, bah, j'appelle Romain, je lui dis à son où les OP.
C'est fou parce que je suis du coup l'ami de beaucoup de. Hein ? Chez Influx.
Non, je sais pas pour moi. Mais je vous vois pas comme deux personnes distinctes.
C'est ah, c'est-à-dire, on est la même personne.
Je vous vois comme un ami. Qui partage deux cerveaux très différents.
Ah ça c'est oui.
Merci.
Mais je sais pas. Ouais, ça dépend de mon problème. Mais c'est déjà très rare que j'appelle pour un problème. Mm. Donc
finalement, c'est déjà très rare que t'appelles. T'aurais pu arrêter ta phrase là.
C'est déjà très rare que oui, c'est vrai. Voilà. Et toi, Manuel ?
Moi ?
Ouais.
Je communique assez peu les bonnes nouvelles.
Ça c'est vrai.
C'est vrai.
C'est insupportable d'ailleurs.
Et parfois... je parle pas de mes problèmes.
Mais d'ailleurs, quand il y a une bonne nouvelle pour Manuel, il faut savoir parce qu'après les gens vont être déçus. En général, il fait c'est bien.
Ah oui, c'est ça. Non, mais là, je te donne un exemple. Il est en contact avec un truc qui peut m'intéresser, etc. Il m'a envoyé le mail en me disant oh, je pense dire non parce que ça va pas t'intéresser. Je regarde le truc, je fais bah, pourtant, ça a l'air quand même assez dans ma ligne édito de voir et tout. Jusqu'à ce moment-là, il me dit par téléphone. Au fait, c'est calé, il faut que tu sois là-bas telle date. J'ai vraiment, entre les deux, aucune info. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour Manuel, c'est vraiment, c'est comme si tu décales le verre d'un centimètre sur la table, quoi. Ça ne change rien à ta journée, quoi. Voilà.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Septième point. À propos de l'embauche de cadres de grandes entreprises dans de petites entreprises, si au bout de 30 jours, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont à la hauteur, licenciez-les définitivement.
J'ai pas compris le début.
À propos de l'embauche de cadres de grandes entreprises dans de petites entreprises.
D'accord.
Si au bout de 30 jours, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont à la hauteur, licenciez-les directement.
Oui, ok, je comprends.
Il y a une règle qui dit hire fast and fire fast. Et j'aime bien cette règle. Et c'est ce qu'il dit là.
Ça veut dire t'es chaud bouillant.
Mais ça, encore une fois, ça marche moins ici, quoi.
Si, on a une période d'essai, c'est fait pour ça.
Ah,
tout
ouais,
le monde okay. L'oublie.
C'est vrai.
C'est vrai.
Dans le mot période d'essai, tout le monde retient période. Mm. Moi, je retiens essai.
D'essai.
Et c'est exactement ça. Moi, je pense que si. Alors, il y a ce. Il induit dans le raisonnement ce choc, ce rapport de taille. En fait, souvent, des startups ou des boîtes avec beaucoup de croissance ont besoin d'acheter une expérience qu'elles ne trouveront pas dans leur recrutement habituel. Donc, elles vont chercher.
Le Mbappé de la startup.
Elles vont chercher exactement des cadres de plus grosses boîtes qui vont être capables d'importer de l'expérience dans leur boîte. Le problème, c'est que. Ces gens sont habitués à des façons de travailler différentes. Moi, j'en ai connu qui, par exemple, avaient des idées, mais ne faisaient pas leurs slides. J'en ai connu qui envoyaient des notes et qui disaient « Bon, voilà, c'est mon assistante, elle est où ? Elle fait mes slides comment ? C'est mon assistante qui répond à mes emails. Voilà, je la vois, je lui dis voilà ce que je pense, et puis c'est elle qui répond. »
Quel enfer !
Donc là, il y a un choc de culture assez fort. et donc...
Ça, j'en ai vécu un quand même, hein. Je vais pas citer de nom, mais t'es prêt à tourner, tu as un manque d'informations, plutôt que d'ouvrir Google, la personne appelle sa secrétaire qui ouvre Google. Je l'ai vécu. C'est voilà. Ouais, bah, c'est un vrai choc de culture. Pour l'avoir vécu, tu vois ça devant tes yeux, tu fais. Alors tu faisais la même chose, sauf que tu disais Google ou Siri, ça te répond pareil. Hein. C'est puis tu te dis putain le peu de valorisation qu'il y a du coup de l'autre côté. Parce que tu pourrais au contraire utiliser cette aide à bon escient pour peut-être répondre à des courriers, faire des choses qui ne peuvent pas être faites juste comme ça en déplacement ou autre, tu vois, avec certains postes.
Et je pense qu'effectivement, si au bout de 30 jours, tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
C'est combien de temps la période d'essai ?
En général, ça dépend du contrat, mais c'est entre 3 et 6 mois.
Ah ouais, ok. Oui, donc au bout de 30 jours, c'est largement faisable.
Au bout de 30 jours, si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
Ok.
Il faut virer.
Et tu le sens, je pense, avec l'énergie, avec l'implication.
Et t'es là, t'hésites, tu te dis, bon, je sais pas, il y a tous ces trucs positifs, mais j'ai encore ce doute, ce petit doute, laissons-nous encore un peu de temps pour vérifier, etc. Et là,
c'est trop tard.
Là, c'est une connerie. Parce que le temps de recruter quelqu'un d'autre, de comprendre ce qui n'a pas marché dans ce profil, de rebriefer TRH ou ton cabinet de recrutement, etc., etc., tu vas te mettre en retard juste sous prétexte de vérifier un truc qui, de toute façon, a pas l'air de marcher et déjà c'est mal engagé. Donc moi j'aime bien cette règle là qui dit ou tout blanc ou tout noir.
Est-ce que ça marche qu'avec les cadres qui viennent de grandes entreprises ou c'est universel?
Non, ça marche plutôt avec les gens sur les profils de recrutement à risque, c'est-à-dire le à risque, ça peut être quelqu'un qui a une très grande expérience dans une boîte qui est très jeune, quelqu'un qui a bossé dans une très grosse boîte et qui se retrouve dans une petite boîte. Tu vois, tous ces profils de différenciation. Quand tu es dans un profil assez adapté, classique, etc., là, utilise plus de temps, crée des phases. Mais pour ça, il faut créer des slots et des bilans. Donc, il faut faire des périodes. Ça dépend du rythme business de ta boîte, mais ça peut être de 10 à 20 jours. Et dire, voilà, pour les 10 prochains jours, on va tester ça. Dans 10 jours, on s'arrête, on fait un bilan, on discute. Pour les 10 prochains jours, les 10 jours d'après, on va corriger ce que tu n'allais pas dans la première période et tester ça. Et on fait un bilan. Et au bout de quelques cycles, tu vois si la personne en face de toi est capable de comprendre, admettre, s'adapter. Si tu as de la résistance au changement alors que le mec vient juste d'arriver, c'est pas bon signe. Parce que quelqu'un qui vient d'arriver, par définition, son job, c'est d'épouser la structure dans laquelle il vient.
Ouais.
C'est pas de la changer. Il pourra participer au changement de cette structure quand il aura déjà fait ses preuves, été intégré, créé de la valeur,
intégrer,
etc. Et après, il pourra participer au changement de cette structure. Mais quand tu arrives et que tu veux déjà tout changer, c'est pas top top.
Mais donc, tu préviens la personne, toi, tu lui donnes ton plan en disant,
ouais.
En bout de 10 jours, on fera ce bilan-là, etc. Et elle comprend que la période d'essai ira peut-être pas jusqu'au bout.
Il va même, Manuel va même plus loin, c'est-à-dire que le premier rendez-vous, en fonction des postes, pour l'avoir vu, il lui dit, bon, alors, qu'on soit bien d'accord, pendant 6 mois, tu nous sers à rien. Tu consommes, tu vis, tu coûtes de l'argent, mais tu nous serviras à rien. Il y a 3 mois où tu vas apprendre, regarder, observer, te taire. En gros, t'as pas de questions à poser, t'as rien, tu vas regarder. Les 3 mois qui vont suivre, là, tu vas commencer à poser des questions, tu vas t'habituer aux outils, tu vas commencer à prendre en main les outils et autres. Et peut-être et seulement après, t'auras des capacités pour provoquer quelque chose.
C'est ça, bien, déjà, parce que c'est pas vicieux, du coup.
Bah non, pas
du tout. Tu sais à quoi s'attendre.
Moi, je suis un garçon très upfront.
Ouais.
Alors,
dis les choses.
Dis-moi, Manuel, dans l'autre sens, moi, j'ai détecté un truc qui peut me permettre de dire, tiens, bon, là, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est quand il n'y a pas de manque. Si au bout, dans ta période d'essai, si tu vois que tu as des vacances qui sont prises par la personne ou que tu as un moment où elle n'est pas disponible pour travailler, etc., observe au bout de, mais ne serait-ce que 3-4 semaines, est-ce que quand tu vas dans la pièce où cette personne travaille ou alors dans les calls, etc., est-ce qu'elle te manque? Ou est-ce qu'en fait, toutes les tâches que tu lui avais données, finalement, tu les reprends parce qu'elle est plus disponible et il n'y a aucun manque? T'arrives et tu te dis, en fait, que la personne soit là ou pas.
C'est une façon de mesurer son impact.
Ok, ça tu... Okay.
Je suis d'accord.
Huitième point. À ce point, je sais que Manuel va répondre par une citation de Sénèque. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, les chances que vous l'obteniez sont extrêmement faibles.
Tout à fait. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
J'ai rien à dire.
Je le connais par cœur. Neuvième point. Prenez soin des gens, des produits et des profits dans cet ordre.
Ah, totalement.
Gens, produits, profits.
D'abord les gens. D'abord les people. Parce que sans eux, il n'y a rien. Et on n'est que le produit de son équipe. C'est évident. Et souvent, beaucoup, beaucoup de personnes ne rangent pas les choses dans cet ordre. Et c'est dommage. Sans humains, il ne se passe rien. On a les entreprises, qu'elles soient de services ou industrielles, c'est des humains qui se réunissent ensemble pour partager un pourquoi, une vision, un projet, y croire ensemble, se mettre en religion ensemble pour servir ce pourquoi et en vivre. C'est-à-dire créer de la valeur qui leur permet de rester en vie et de distribuer cette valeur auprès des gens qui composent l'entreprise, des gens qui la dirigent et des gens qui la détiennent. Les employés, le C-level et les actionnaires. Si ça part pas des gens, il se passera rien. Il y aura un turnover de fou.
Mais c'est difficile de bien s'occuper des gens sans trop en faire.
Il faut s'occuper des gens sans jamais rentrer dans la partie personnelle. Tu ne t'occupes pas des gens en tant que personne, tu t'occupes des gens en tant que compétence qui sert un projet. Ces gens sont des outils qui servent un projet. Ils ne sont pas des amis que tu veux aider dans la vie. Ça, c'est une relation professionnelle. Et en Europe, comme on est des romantiques, on a tendance à confondre ces deux sujets. Dans la culture anglo-saxonne, on te dit « nothing personal ». Je ne juge pas la personne. Je juge le fait que tes agissements dans ton travail ne servent pas le projet, donc tu vas partir. Tiens, regarde, ta boîte est là. Remplis ton carton. Dans 2 heures, ton badge ne marche plus. Mais c'est pas personnel.
Ouais.
T'es un mec sympa. On peut aller boire une bière à 17h.
Ça, Manuel, il est vraiment capable de le faire.
Mais est-ce que ça t'incite pas à confondre, justement? Comment ils font toujours la différence alors qu'ils peuvent... J'imagine qu'ils le disent, mais qu'ils le font pas.
En fait, je pense... Alors, si tu me permets, je veux essayer de répondre. Il faut que ça vienne de la personne qui fait partie de tes équipes. Par exemple, en tant que manager, c'est pas toi qui vas poser une question personnelle. Mais si, par contre, dans ton équipe, tu sens qu'à un moment, il y a quelque chose, petit peu un moment de faiblesse ou autre... qu'il a besoin de te parler ou que ça lui fait plaisir de te parler d'un truc perso, laisse-le, mais rentre pas dans le jeu, lui pose pas plus de questions, soutiens-le ou dis-lui que tu comprends, etc. Mais coupe assez court. Voilà, je pense que c'est ça. Je crois avoir compris qu'en tout cas, c'est dans un sens unique, en tout cas en fonction de où tu es placé dans les équipes.
Moi, je me contente de poser des questions. Je me suis toujours contenté de ça.
Et ensuite, produit avant profit. Ça paraît logique, sais pas si c'est tant respecté que ça.
Bah, c'est en tout cas tout ce qu'on a fait, Léo. Ouais. Pendant des années, on pensait même pas à gagner un seul euro avec ce qu'on faisait.
Bah, ça n'existait pas.
Et il y a même des moments où on était contacté et on répondait pas parce qu'on considérait qu'on n'avait pas assez le choix à ce moment-là pour pouvoir dire non ou oui au bon projet. Donc je pense que c'est tout ce qui doit nourrir des solutions à un problème. Faut pas penser au profit, sinon t'aurais plein de boîtes qui n'existeraient pas. Uber, quand on en parlait tout à l'heure, n'ont pas été profitables avant je sais pas combien d'années. Quoi.
C'est qu'un produit, tu ne lui demandes pas d'être rentable from scratch. Tu lui demandes d'être rentable dans la durée. Ça peut impliquer de la recherche et développement, du temps, un market fit, le fait de trouver ton marché, etc., etc. Donc des produits pas rentables, un produit pas rentable, c'est la définition d'une start-up. C'est la raison pour laquelle elle lève des fonds légitimement. C'est qu'elle a besoin de financer de la recherche le temps de trouver son marché. Une start-up, c'est une boîte qui est techniquement en faillite. Le temps de trouver son marché. Et il y a des gens assez fous pour mettre de l'argent dedans parce qu'ils croient en la vision et au fait qu'il y aura un marché. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déperditions et c'est normal.
T'as jamais trop été, toi, investisseur dans des startups, etc. Tant que t'es pas vraiment dans le board, j'ai l'impression que tu peux pas avoir des décisions. Ou si, je m'en rends pas compte.
Moi, j'ai une simple règle. Je n'investis que dans les trucs que je comprends. Et comme je suis très bête, je comprends peu de choses, donc j'investis peu.
Tout est vrai dans cette phrase.
Ça m'arrange beaucoup.
Non, il faut nuancer le point de « il est bête ». Manuel préfère passer juste beaucoup de temps.
C'est ce que j'ai trouvé de plus vrai, moi.
Préfère passer beaucoup de temps sur peu de choses, mais en allant en profondeur.
Dixième point. Ah, oui. Dixième point. Ce qui incite les gens à suivre un leader, c'est 1. La capacité d'articuler la vision. 2. Le bon type d'ambition. Et 3. La capacité à réaliser la vision.
Disons qu'un leader qui te vend des incantations, t'auras du mal à le suivre dans la durée parce qu'au bout d'un moment, tu te dis « bon, c'est mignon tout ça, mais il n'y a rien qui avance, quoi. Je vois rien venir. » Donc, t'as pas l'impression de suivre un leader, t'as l'impression de suivre une voyante. Et ma passion pour les voyantes vous fait
exceptionnel.
Confirmer cette théorie. Le leader a besoin d'avoir la vision et il a besoin de démontrer que cette vision est en train de s'exécuter par des éléments tangibles qui montrent la progression de cette vision. Et c'est ça qui fait que les gens vont le suivre. Il n'a pas besoin, il n'est même pas souhaitable qu'il soit dans la réalité opérationnelle. Ça, c'est les managers qui doivent y être. Le leader doit pousser son organisation à faire des choses qui dérangent l'organisation. Et il doit accepter à certains moments que certaines de ses idées soient retardées, écoutées mais retardées, et à d'autres moments, mettre suffisamment la pression sur son organisation pour lui dire non, c'est maintenant. Romain le subit régulièrement.
Ouais, mais ça me dérange pas, ça.
Ça va ?
Ouais.
Tu veux en parler ?
Bah non, mais je préfère le faire rapidement et savoir si c'est de la merde ou pas, et le dire au board, plutôt que de prendre du temps, de dire je le ferai plus tard, et où tu t'aperçois au bout de 3 mois que d'un, tu t'es stressé pour un truc qui en fait te prend 2 heures, deux, ça marche pas, donc en fait, il y avait tout pour que tu le réalises plus rapidement et que tu dises aux équipes, bon, vous êtes complètement tarés, ça marche pas, ou alors dans l'autre sens, ça c'est une folie, faut passer du temps là-dessus parce que ça va nous faire gagner du temps sur tout le reste.
Mais c'est une qualité qu'il a, c'est qu'il peut exécuter des choses où il n'est pas convaincu.
Ouais.
Et les exécuter, malgré tout, très correctement, avec beaucoup d'attention.
Ce qui est une vraie compétence.
Et c'est une qualité. Mmh. C'est pas une compétence, c'est une qualité.
Une compétence.
Et se rendre compte, along the way, qu'au final, c'est très utile. Alors, ce qui m'énerve plus, c'est qu'il lui faut toujours 24 heures.
Ça, c'est une règle. Ça rend fou, Manuel. Quand Manuel me parle... En plus, il faut savoir que Manuel, quand il va t'annoncer quelque chose, ça fait... En moyenne, à minima, 3 mois que c'est déjà dans sa tête et qu'il se dit juste « c'est pas le bon timing, faut que je retarde un peu le truc, là ils sont pas là-dedans, là si je leur en parle maintenant, ils le feront pas, etc. etc. » Quand c'est le bon timing, Manuel est content. Tu vois qu'il est vraiment content. Tu sais, c'est comme s'il y avait un petit accouchement, tu vois. Il se dit « ah, ça y est, c'est maintenant, quoi. Ça, là, ça va sortir. » Et quand il te le dit, eh ben moi, enfin, je suis vraiment stoïque. C'est en mode « je mens pas les couilles. J'ai 10 milliards de trucs dans la tête dans la journée que ça. » Il me dit « bah, vous en pensez quoi ?» Bah rien, comme d'hab, je vais regarder. Bon, oui, ok, c'est un truc nouveau, etc. Et ça le rend fou. Et le lendemain, en général, il se réveille, il y a déjà le truc qui est configuré, prêt à tourner, etc.
Et c'est à ce moment-là que tu rentres dans mon bureau et que tu me dis « Oh, ça me fait chier, Manuel, il m'a mis sur un truc, c'est de la merde, voilà, j'aime pas du tout, là. Je perds du temps, le temps de le configurer et tout, alors qu'on va revenir à l'ancienne version, machin, tout ça.
Bah, » c'est ma plus...
En fait, ça change le lendemain.
Mais parce que plus la société se construit et se consolide, plus tu as peur que le temps que tu passes à intégrer des nouveaux outils, au tout début, c'est pas grave, tu viens de démarrer le truc, t'es pas beaucoup, etc. Mais quand tu dois à la fois commencer à gérer des équipes, à la fois continuer de suivre les encours, et en plus de ça, intégrer des nouveaux outils qui bouleversent les équipes et qui bouleversent les encours, tu veux juste pas trop te casser la gueule. Donc moi, en général, pour gérer ça, ben, je préfère tout faire tout seul au début. Ne rien demander à personne, je fais tout seul le week-end, je fais mes petits trucs, mes pompotes, machin, je modifie tous mes trucs et tout, et ça arrive le lundi, et je dis aux équipes, voilà, bon, oui, non, j'ai rien foutu ce week-end, mais ça, maintenant, on va l'utiliser. Mais au moins, je veux démarrer, enfin, c'est un truc que j'arrive pas à déléguer, c'est quand un truc démarre vraiment de zéro, je veux être celui qui construit le truc de zéro. Je ne supporte pas prendre un truc en cours qui n'a pas été construit et pensé par un truc que j'avais en tête. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter.
11e point, une entreprise sans histoire est généralement une entreprise sans stratégie.
C'est vrai. Tu puises dans ton histoire une profonde conviction et une profonde vision. C'est dans tes souffrances que tu trouves tes meilleurs combats.
Bah, peut-être que pour exemple, donner l'histoire de Influx, quand on s'est rencontré juste avec Manuel, que je te connaissais déjà Léo, et toi Manuel, tu m'expliquais ce qui se passait avec les marques.
Oui, bah dans notre histoire, il y a cette conviction qui fait que d'un côté, il y a des créateurs qui sont briefés par des tonnes d'intermédiaires. En général, il y a eu 7 ou 8 intermédiaires avant que le brief arrive jusqu'à vous et le budget s'est évaporé et on vous demande de travailler dans les 48 dernières heures en urgence avec peu de moyens. Et de l'autre côté, il y a des marques qui disent « bah je comprends pas ». La création de contenu avec des créateurs de contenu, je mets beaucoup de moyens et puis ça n'a pas l'air d'accoucher de grand chose, etc. Et en fait, il y a ce truc dans notre ADN en fait qui est de dire bon bah on va squeezer les intermédiaires, les créateurs de contenu c'est pas des hommes sandwich, c'est pas des bannières de pub, c'est pas des AdWords. Si on les briefe correctement, ben on a la valeur qui va avec. Si on leur donne les moyens de faire les choses correctement, vous rendrez compte que vous aurez plus de valeur. Et au milieu, le véritable problème, ce sont tous les intermédiaires de gestion où vous avez le sentiment que c'est plus facile de mandater des intermédiaires. Et ils n'ont pas toujours une immense valeur ajoutée.
Et c'est ce qui fait qu'on s'est concentré beaucoup sur les agences qui, elles, géraient les marques et nous, les créateurs. Donc en fait, chacun faisait son boulot correctement et quand tu mets les deux cerveaux dans la même pièce, bon, en fait, ça marche vachement bien.
Exactement.
12e point, tant que vous ne faites pas l'effort de connaître quelqu'un ou quelque chose, vous ne connaissez rien.
Bah oui, c'est do your homework.
Mais ça, c'est... Attends, ça, c'est un truc. Ça étonne encore certaines personnes quand on me parle d'un truc et que je dis « Ah non, ça, je connais pas du tout. » Même si on me le sort en mode rêve, comme si c'était obligatoire. Mais moi, je déteste les gens qui disent « Ah ouais, bien sûr, je vois. » Alors qu'ils voient que dalle, en fait.
Moi, je déteste surtout les gens qui viennent à un meeting et qui n'ont absolument pas fait leur travail de recherche en amont. Ça, c'est pas acceptable, en fait. Ne va pas au meeting, demande un décalage du meeting, dis « Je suis pas prêt », mais ne consomme pas du temps inutilement.
C'est que ça, on nous demande. Hein.
T'es assis dans une pièce et tu sais pas de quoi tu parles, en fait.
Vous avez déjà vu notre site ? Ben oui, puisque je prends 15 minutes de ma journée pour te parler. Heureusement que j'ai cliqué sur ton site, ça serait complètement con. Donc c'est le premier truc, quoi.
13e point. Dans les entretiens individuels, ce sont les employés qui fixent l'ordre du jour. C'est leur temps, ils doivent faire 90% de la conversation.
Mais c'est vrai. Un entretien individuel, c'est... un employé te feedback, et quand tu réfléchis, une relation employeur-employé, elle est pas équilibrée. Dans la majorité des cas, l'employeur, à travers sa direction, son management, te demande des choses, tu les exécutes. Donc il faut au moins qu'il y ait un moment où les rôles soient inversés pour que cette relation s'équilibre un minimum. Mais au quotidien, t'as des tâches qui te sont assignées, t'as des objectifs qui te sont assignés, t'as une appréciation de ton travail qui t'est donnée par ton manager, etc. Si à aucun moment l'employé reprend la main pour dire « mon sentiment c'est ça, mes problèmes c'est ça, mes angoisses c'est ça, mes éléments de satisfaction c'est ça, etc. etc. » Ben cette relation elle peut pas durer. Il faut un moment lâcher du lest et créer des moments où les choses s'expriment, parce que sinon on peut pas les gérer.
C'est ce qui fait que parfois j'aime bien poser la question de « penses-tu être capable de ?» ou « est-ce que tu penses pouvoir faire ça avant telle date ?» plutôt que de l'exiger. Mmh. Parce que ça va créer du coup déjà un questionnement, et parfois ça t'apporte des réponses qui sont intéressantes, parce qu'on te répond « ça va être compliqué pour cette date-là parce que j'ai déjà ça en cours ». Et toi, parfois tu l'as même oublié parce que tu le fais x20 dans la journée. Donc
Même te rendre compte qu'en fait c'est pas du tout à lui de faire ça.
Exactement.
Et le donner à quelqu'un d'autre.
Exactement. Donc poser la question aussi, c'est important.
14e point. Là, c'est l'auteur qui parle. Chaque fois que je rencontre un PDG qui a réussi, je lui demande comment il a fait. Les PDG médiocres mettent en avant leur brillant mouvement stratégique ou une variété d'autres explications auto-congratulatoires. Et les grands PDG ont tendance à être remarquablement cohérents dans leurs réponses. Ils disent tous « je n'ai pas démissionné ».
Bah oui. En fait, le succès, c'est ce moment irrationnel où tu persévères au lieu d'abandonner.
Mais
Alors que tout élément rationnel te pousserait à abandonner.
Ouais.
Bah, je vous le dis, hein, quelquefois, quand il est 6h du matin que je suis sur mon scooter électrique pour venir chez Influx, plus d'une fois où je me suis dit « qu'est-ce que je fous là ?» quoi.
Moi, j'ai une anecdote
est-ce
là-dessus.
Que quelquefois, c'est tous les jours ?
Non, mais de temps en temps.
Mais j'ai une anecdote là-dessus. J'ai un collaborateur chez Imakina qui me présentait sa démission à peu près tous les trimestres.
Sérieux ?
Ouais.
Mais non.
Si. Puis on s'asseyait, on discutait, et puis à la fin, il disait... Pouf. Et puis il déchirait sa démission.
Et puis
c'était reparti.
Mais c'est incroyable.
Et je trouvais ça génial, parce que je lui disais... Mais bon, et à la fin, les meetings qu'on avait ensemble, je lui disais « réévaluation de ta démission ». C'était le titre du meeting que je lui envoyais. En fait.
Et il a bien fait de persévérer.
Et bah, 15 ans après, il était toujours là.
Et tu l'as viré.
Non. Non. Je trouve ça très intéressant. Les gens qui sont comme ça sur la brèche,
ouais.
Et qui vont chercher chez leur management les raisons de continuer à supporter cette difficulté. Et si t'es un bon manager, tu lui donnes des raisons de continuer. Et c'est moi qui avais la pression dans ce meeting, c'est pas lui.
Et j'allais dire, pour toi, c'était bon signe, parce que c'était la preuve que il se poussait dans ses retranchements.
C'est ça. Et il fallait qu'à chaque meeting, j'ai suffisamment de conviction pour lui donner envie de continuer.
15e et dernier point. Le combat, c'est lorsque vous demandez pourquoi vous avez créé cette entreprise. Le combat, c'est lorsque les gens vous demandent pourquoi vous ne démissionnez pas et que vous ne connaissez pas la réponse. Le combat, c'est lorsque vos employés pensent que vous mentez et que vous pensez qu'ils ont peut-être raison. Ce qui est difficile, ce n'est pas de rêver grand. Ce qui est difficile, c'est de se réveiller au milieu de la nuit avec des sueurs froides quand le rêve se transforme en cauchemar.
Bah, c'est le doute, on en a parlé dans le précédent podcast. Le doute fait partie du processus, et ce qui va séparer vraiment les gens qui vont continuer, qui vont avancer, qui vont entreprendre au sens premier du terme, de ceux qui vont abandonner, c'est ceux qui arrivent à vivre le doute comme un élément faisant partie du processus et pas comme une valeur éliminatoire. Vivre avec le doute tous les jours, c'est certainement s'améliorer. Abandonner face au doute, c'est refuser d'apprendre.
Merci les gars.
C'était trop intéressant. J'ai appris plein de trucs. Du coup, je vais vous quitter pour lancer ma startup.
Bravo Léo.
Merci.
À demain.
Salut.
La bise.
Bye bye.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.